la reine la faucille. « Votre Barthelasse ! » s'écria Hespérite. « Ne me parlez pas de la Barthelasse. » « Ou plutôt si, au contraire, parlez-m'en, car c'est là, puisque depuis une demi-heure, nous nous amusons à remuer, comme font les avares de leurs pièces d'or inutiles, nos lointains souvenirs d'amour. Oui, c'est là, peut-être, à coup sûr là, dans cette île verte que vraiment je me rappelle avoir aimée. De façon païenne, la bonne, au hasard du désir et de la rencontre, avec la complicité des ombrages et du soleil. Maintenant qu'à moitié chemin de la vie, assis un instant sur la crête, je vais bientôt descendre la pente, au bout de laquelle, comme un point blanc à l'horizon, sous le soir mourant qui décline, brille le marbre du tombeau. Et tandis que je puis encore embrasser, d'un dernier coup d'œil mélancolique, la longue route parcourue, parmi tant d'étapes d'amour, chaumières et châteaux, logis accueillants ou mauvais gîtes, je n'en vois pas, ou mieux qu'à la Barthelasse, le Dieu m'est apparu, tel qu'il est en somme, innocent, nu et sauvage un peu. C'était un dimanche après boire. Le soleil flambait, le ciel luisait, la brise qui souffle du Ventoux faisait dans les roseaux secs des musiques. Et sur nos têtes, parmi les feuillages, bruissaient des stridulements de cigales en train d'aimer ou de mourir. Il y avait là, chantant leurs chansons et disant des vers, Théodore avec Frédéric, enthousiastes et naïfs comme des poètes de la Renaissance. En face, la cité sonnante dressait dans le bleu son palais géant, couleur d'or, ses remparts en fine dentelle, les pointes de ses 20 clochers, pendant qu'au premier plan, le Rhône coulait rapide vers la mer et semblait emporter dans ses tourbillons des lambeaux de pourpre papale. Une fille passa, oh mon Dieu, une de ces filles dont le seul métier est d'aimer. Nous les méprisons aujourd'hui, mais l'Antiquité les faisait prêtresses. Or, je me sentais ce jour-là, ayant bu du vieux Châteauneuf, ayant entendu Théodore me réciter sa Vénus d'Arles, l'âme pleine d'antiquité. En passant, cette fille regarda. C'est la fouine, dit Théodore. La fouine, elle, avec ses cheveux brun clair, ce clair regard, l'insolence de ce corsage et cette impériale allure qu'il a dénoncée arlésienne. Car les arlésiennes, ainsi que l'a si bien observé l'ami Berthoux, l'apiculteur poète à ses heures, ont toujours l'air de marcher sur des roses. La fouine ? On osait l'appeler la fouine ? Non, j'en voulus à Théodore, et ce sobriquet m'offensa. Près du fleuve, je m'en souviens, un âne, lèvres rebroussées, tondait joyeusement de grands chardons poussés au milieu des graviers. Je me dressai pour caresser l'âne et lui donner des débris de gâteau. Mais je ne songeais qu'à la fouine. Et tandis que l'âne broutait, tandis que mes amis chantaient, sans projet, avec le seul besoin de solitude, je me mis sous les centenaires peupliers blancs, d'où le coton pleuvait, épars et doux comme une neige, à suivre la berge empierrée. Je regrettais déjà la fouine. Pourquoi ne pas l'avoir arrêtée ? Et faut-il que l'homme soit fou pour laisser s'en aller ainsi, sans le saisir, brusquement par l'aile, ce papillon fugace et rare ? Le désir. Au bout de quelques 200 pas, dans un endroit, où le rivage tourne subitement, devant moi, j'aperçus la fouine. « Je vous attendais, » me dit-elle. « En passant, j'ai vu vos yeux. » Et sans un mot de plus, elle, me frayant le chemin, moi derrière, écartant les branches, nous nous enfonçâmes dans l'île, à travers un fouillis de saules, d'osiers noirs et d'amarines, d'où des oiseaux d'eau s'envolaient, et dont les chatons secouaient sur nous des nuages de jaune pollen, pareils à de la fleur de soufre. « Prends bien garde, il y a un fossé !» Elle me tutoyait déjà. Et le fossé franchi, après d'autres fossés, ainsi que des bêtes sous bois, nous arrivâmes dans un creux herbu, ombragé, mystérieux, comme une alcôve, et situé sans doute au milieu même de l'île, car ni de droite, ni de gauche, ni du côté empire, ni du côté royaume, le bruit grondant du fleuve ne s'entendait. Ici, nous serons seuls, dit la fouine. Puis, son tablier relevé, elle prit en main une courte faucille, la vieille faucille virgilienne, celle dont nos paysans se servent encore en moisson. Et avec sa faucille, coupant des herbes et des branches, souriante, elle fit un lit. « Après ?» interrogea quelqu'un. « Après ?» répondit Hespérite. « J'achetai à la fouine sa faucille. Mes amis, en la voyant, car je ne songeais pas à la cacher, devinèrent tout et me raillèrent. Ils étaient, j'imagine, jaloux un peu. Mais comme les saules répandaient une enivrante odeur de miel, comme le Rhône coulait plus rouge, comme pour répondre à l'hymne d'amour qui vibrait encore dans mon cœur, « Avignon, par toutes ses cloches, carillonnait nuptialement !» Et comme à travers les fourrés, là-bas, il me semblait toujours la voir. Elle, et son beau corps, et son beau geste, au moment où, le torse cambré, dans une pose hiératique et sculpturale, elle tranchait les branches vertes à brasser. Tranquille, presque fière, en montrant la faucille. « Eh bien oui, » dis-je, « c'est la fouine qui m'a donné ce souvenir. » Hespérite s'était tue. Au bout d'un instant, il ajouta, « Je possède toujours la faucille. Vous avez pu la voir dans mon cabinet de travail, au-dessus d'un moulage réduit de la Vénus d'Arles. » La fouine ressemblait un peu à cette Vénus. Je ne l'ai plus jamais rencontrée. Peut-être d'ailleurs m'étais-je trompée. Peut-être la fouine n'a-t-elle été belle réellement que dans le mirage de mon rêve. Qu'importe, mon rêve fut un rêve. La vie, parfois, se présente vulgaire, mais le sage, pour en relever l'originelle bassesse, a cette ressource de rêver. 1928, fin de la nouvelle de Paul Arène, La Faucille.